SBS Radio.
La légende dit que Java serait occupé par une race blanche pendant une longue période et puis viendrait une race jaune qui chasserait cette race blanche. Ce qui s'est bien passé puisque l'Indonésie est occupée par les Hollandais pendant 3 siècles et demi. Et puis, en 1942, les Japonais sont venus chasser les races blanches, la race blanche en Indonésie. Oui, la légende dit que après le départ de la race jaune, viendrait l'indépendance et un homme doué de Sakti, un homme surnaturel, dirigerait le destin du pays. Ce qui s'est bien passé également, puisque depuis l'indépendance en 1945, le président Sukarno a dirigé le pays pendant 20 ans.
Des pays exotiques qui font rêver. Java, Bali, les Célèbes, les Moluques, Bornéo, Sumatra, la Papouasie. Des pays, non. 13 000 îles et pourtant une seule nation, l'Indonésie.
Pour commencer, l'Indonésie, c'est un terme grec qui a été créé par un Anglais.
719 langues, plus de 13 000 îles et pourtant tout cela forme une conscience, l'Indonésie.
Reprenons. Au XVIe siècle, les Occidentaux débarquent. Leur domination sur l'archipel va durer jusqu'en 1949. C'est ce monde complexe et dorénavant majoritairement musulman que vont découvrir les premiers colons portugais, anglais et surtout et durablement les Hollandais qui vont imposer un ordre colonial impitoyable à toute la population. Dénués d'état d'âme, les colons font remplir les bateaux de riches cargaisons direction Amsterdam, sans égard aucun pour les autochtones.
Entre 1830 et 1870, quand le système de production était bien mis en place, les Hollandais ont gagné 832 millions de florins grâce à Java. Tous les profits leur sont revenus, rien n'a été versé à Java. En termes actuels, c'est l'équivalent de 75 à 100 milliards de dollars. Ils ont utilisé cet argent pour construire leur système de fortification contre la France, rembourser la dette nationale, construire tout un système de canaux et de voies ferrées. Cela a grandement facilité leur passage dans le monde moderne. Ce fut la colonisation la plus rentable de toute l'histoire.
En 1928, des étudiants originaires de toutes les îles des Indes néerlandaises se réunissent à Jakarta, alors Batavia, pour prononcer le serment de la jeunesse qui jette les fondements de la République indonésienne. Une patrie, l'Indonésie. Une nation, la nation indonésienne. Une langue, l'indonésien. Un hymne national est créé, le mouvement nationaliste indonésien est né, dans lequel les femmes ont leur rôle à jouer. Le sentiment d'appartenir à une même nation est profond, et l'océan unifie les peuples bien plus qu'il ne les isole. Les Hollandais sont partagés. Certains voient bien qu'ils ne peuvent pas maintenir éternellement les autochtones à la marge de la société. Des écoles sont créées pour assurer une élite au pays. Les Néerlandais décrètent la politique éthique, mais la Grande Dépression de 1930 donnera un coup d'arrêt à cette vertueuse réforme et les mauvaises habitudes vont reprendre très vite.
L'avant-dernier gouverneur siégeait en effet lui-même au conseil de la compagnie pétrolière Shell. Il s'appelait De Jong. Quand on lui a demandé en 1933 ce qu'il pensait des mouvements nationalistes et du futur des Indes néerlandaises, il a répondu « Nous avons régné ici par les armes pendant 300 ans et il y en aura encore 300 autres avant que ce peuple infantile ne soit prêt pour l'indépendance. »
Et voilà que la Seconde Guerre mondiale va redessiner les cartes du monde. Un mois après Pearl Harbor, les Japonais galvanisés attaquent les Indes néerlandaises. Nous sommes en janvier 1942. Les Hollandais résistent pendant 2 mois et puis se rendent. Tout va mal pour eux. c'est la fin de plus de 3 siècles de domination et leur propre pays est lui-même occupé par l'armée allemande. Les Indonésiens se réjouissent des malheurs des anciens colons et font un triomphe aux Japonais perçus comme des libérateurs. Aujourd'hui, les enfants des écoles sont invités à connaître cette épopée. On ne nie pas qu'à leur arrivée, les Japonais ont été acclamés. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. À présent, les mémoires retiennent surtout l'angoisse suscitée par ce nouvel envahisseur.
On avait tous peur. Quand il y avait des échanges de tirs, on avait peur. On ne sortait pas de la maison, ma famille et moi. Les tirs venaient du ciel.
Ils prenaient les filles pour les faire travailler dans des hôtels.
Dans les musées, on insiste sur les souffrances infligées. Travaux forcés, esclavage sexuel. Pourtant, un homme va comprendre le profit qu'il peut tirer de la présence japonaise en Indonésie. Il est jeune, il est beau, il s'appelle Sukarno. Ingénieur de formation, il a pu faire des études grâce à la fugace politique éthique des Néerlandais. Il était avant-guerre à la fois proche de l'organisation Sarekat Islam, mais aussi du Parti social-démocrate, qui deviendra le Parti communiste indonésien. Il avait fondé en 1927 le Parti national indonésien et fut envoyé en exil par les Hollandais. Aujourd'hui, il devient un interlocuteur choyé des Japonais. Ceux-ci promettent l'indépendance aux Indonésiens dès la guerre terminée. Ils seront alliés et les Occidentaux n'auront plus jamais droit de cité dans cette région du monde. L'Indonésie appartient aux Indonésiens. Sukarno s'applique à revendiquer une histoire nationale, jusqu'ici étouffée par les colons hollandais. Le nationalisme de Sukarno autorise bien de fermer les yeux sur les exactions des Japonais alliés aux nazis. En tout cas, en 1945, au secours, ils arrivent. Et voici qu'Américains et Australiens débarquent en Papouasie et à Bornéo. Ils pilonnent les réserves de pétrole détenues par les Japonais, les isolant un peu plus.
Les puits de Bornéo ne sont plus que des volcans qui crachent le feu. La guerre est finie. Il reste aux vainqueurs à reconstruire, de l'Europe à l'Asie, toutes les richesses que la folie des conquérants vaincus a pendant 5 ans réduites en cendres.
Les Japonais s'effondrent et signent leur capitulation le 15 août 1945. Il faut se hâter, car une fois les Japonais partis, qui soutiendra le peuple indonésien? 2 jours après, le 17 août 1945 au matin, Sukarno proclame l'indépendance d'une Indonésie dont il serait président. Un gouvernement est formé, premier ministre, ministre. Mais voilà, les Hollandais viennent récupérer leurs biens.
En accord avec les autorités locales, des troupes hollandaises débarquent dans l'île de Lombok, dans l'archipel indonésien.
Une longue guerre d'indépendance s'engage. Mais pourquoi donc ces autochtones ne baissent-ils pas les armes? Pourquoi tant de haine envers les grands protecteurs hollandais?
À Amsterdam, dans la salle de marbre du Palais Royal, la reine Juliana des Pays-Bas, accompagnée des membres du gouvernement néerlandais, a officiellement proclamé l'indépendance de l'Indonésie. Par cet acte, la reine accorde la souveraineté aux 16 États qui formeront désormais la République des États-Unis d'Indonésie. Après 350 années de colonisation hollandaise, les îles de la Sonde se trouvent aujourd'hui unies aux Pays-Bas par la nouvelle union à la tête de laquelle demeure la reine Juliana.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.